Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, gloire et honneur soient rendus à notre Dieu. Que le Saint-Esprit vienne siéger dans nos cœurs, qu'il vienne remplir nos cœurs, qu'il vienne accomplir l'œuvre parfaite et merveilleuse de Dieu dans chacune de nos vies. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, toujours dans notre grand thème, disposer à demeurer dans la présence de Dieu, nous allons parler de disposer à demeurer dans la présence de Dieu dans la louange ou encore dans le worship. Alors, le worship, qu'est-ce que c'est? Le worship, c'est la louange, c'est l'adoration et c'est plus que de chanter à l'église le dimanche. C'est cette louange-là d'adoration envers Dieu. C'est une célébration, une contemplation du caractère immuable de notre Dieu. Et lorsque nous l'adorons, nous nous rappelons son caractère. Nous nous arrêtons pour le célébrer, pour le contempler. Surtout qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous venons contempler sa grandeur, contempler sa fidélité. Nous venons contempler sa grâce, contempler son pardon, sa bonté, sa patience, sa puissance, toutes ces qualités que notre Seigneur a. Nous venons contempler tous ses bienfaits, tous ses plans éternels dans nos vies. Et le worship, c'est aussi une compréhension de Dieu, de qui il est, qui nous conduit à des convictions qui doivent changer nos valeurs dans nos vies. Oui, on n'adore pas seulement dimanche matin de la semaine. En fait, une adoration, c'est offrir notre corps comme un sacrifice vivant à l'éternel. Pas un worship qui est le dimanche seulement et qui est déconnecté du reste de la semaine, non. Mon frère, ma soeur, je t'invite aujourd'hui. Aujourd'hui, à décider de te consacrer à Dieu avec des choix qui le glorifient. Fais un choix pour la vérité. Fais un choix pour le pardon. Fais un choix de sanctification. Fais un choix de droiture. Le worship, c'est aussi un calme surnaturel. Voyez-vous, ce calme est surnaturel lorsqu'on se retrouve dans la présence de Dieu. Ou parfois, on ne sait que dire. Ou parfois, on n'a plus les mots. On veut juste contempler Dieu. On veut juste adorer le Seigneur. Il est tellement grand, il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Oh, il a tellement fait. On dit, Seigneur, merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu fais aujourd'hui, merci pour ce que tu feras demain. Il y a ces moments où on ne sait que dire. On se retrouve peut-être à genoux dans notre chambre, la porte fermée. On ne sait que dire. On est juste là. Notre cœur brûle d'amour pour Dieu. Notre cœur brûle de soif. On veut juste plus de lui. C'est ce moment-là. Ce moment-là où tout est calme. Tout est calme. C'est un calme surnaturel. Et le worship, c'est ça aussi des conversations avec Dieu. Comme avec un ami. Moïse avait cette habitude de parler avec Dieu comme un ami, face à face, comme un homme parle à son ami. Pourquoi? Parce qu'il avait une intimité profonde, une confiance totale. Et cette relation n'était pas basée sur la perfection. Mais c'était basé sur l'attachement sincère et le respect pour Dieu. Et pour mon premier point, je vais simplement dire que la louange, le worship, c'est une arme de combat contre l'ennemi de notre âme. Lorsque nous sommes en sa parole, en sa présence, en louange, en train de l'adorer, de le chanter dans notre chambre ou en congrégation avec les autres les dimanches lorsque nous nous rendons à l'église. Le worship, c'est une communion intime et personnelle avec Dieu. Intime et personnelle avec Dieu. Je ne parle pas d'une relation que nous avons avec un ami ou un best ami, un best friend ou je ne sais pas quoi. Je parle d'une communion qui est intime, personnelle avec qui? Avec notre Seigneur. Seul. Hors église, Dieu et nous, juste Dieu et nous, moi et Dieu. Mais ça se passe aussi, comme je le disais tantôt, en congrégation avec les autres, quand nous nous rendons à l'église. C'est aussi avec toi en ce moment. À l'église, lorsque nous nous réunissons pour une communication spirituelle, les uns envers les autres. Et je vais donner l'exemple, la définition du worship. Alors le worship, le worship vient du vieil anglais worship qui signifie attribuer de la valeur, honorer, révérer quelqu'un ou quelque chose qui en est digne. Voyez-vous? Nous adorons, nous accordons la plus grande valeur de notre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous honorons, c'est son nom que nous élevons. À lui soit toute l'honneur, la gloire. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne veux plus le lâcher. Décide aussi de ne plus lâcher le Seigneur. Oh oui, nous avons été créés et rachetés et sauvés en Jésus-Christ. Nous devrons être heureux à cause de ça. Réjouissons-nous. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a créé les anges du ciel, rassemblés autour de son trône pour l'adorer. C'est la raison ultime pour laquelle il a créé l'humanité, chacun d'entre nous. Et Jésus dira à la Samaritaine, dans Jean 4, 23, il dira à la Samaritaine, « Admet, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Ou les adorateurs que le Père demande. C'est Dieu omniprésent cherche et il recherche des hommes et des femmes. Il te cherche toi, mon frère. Il te cherche toi, ma sœur. Nous qui sommes là pour disposer à l'adorer. Nous sommes disposés, n'est-ce pas? Disposés à l'adorer en esprit, en vérité. Et moi, à chaque fois que je réfléchis à ce texte-là, je dis, Seigneur, est-ce que je suis un vrai adorateur? Seigneur, est-ce que mon cœur te loue en esprit et en vérité? Je me remets toujours en question. Dans la parole, Jésus nous fait comprendre clairement que ce n'est plus une question de lieu, mais d'attitude spirituelle et de vérité intérieure. Oui, c'est vraiment une question de vérité intérieure, d'attitude spirituelle. Alors deuxièmement, pourquoi est-ce que le worship est-il si important? Oui, le worship est vraiment important, bien aimé. Le worship est vraiment important. Est-ce que c'est parce qu'il y a des vrais et des faux adorateurs? Vraiment, c'est important d'avoir une communion et expérience en worship. Ouais. C'est temps où tu passes du moment dans la présence de Dieu sans regarder ta montre, sans regarder sur ton téléphone. Peu importe le temps que tu avais commencé, tu te dis, oh, j'ai commencé depuis 8h du soir et là, il est déjà 22h. Oui, je ne sais pas, tu fais 3h, je ne sais pas combien de temps tu fais en prière. 1, 2, 3, 4 heures. Tu regardes pas. En fait, le temps ne compte plus pour toi. Ça compte plus pour toi. Et c'est par là que tu acquiers une expérience en worship. Et tu dois savoir une chose. L'ennemi veut te voler ta louange. Le diable veut nous voler la louange parce qu'il sait que par la louange, nous pouvons renverser ses plans. Il sait que par la louange, beaucoup de choses dans nos vies peuvent changer, bien aimé. Et c'est magnifique d'être touché et d'avoir un témoignage. Mais Dieu veut que nous puissions être touchés. Dieu veut que tu puisses personnellement développer une scène théologique du worship. Tu dois personnellement découvrir qu'est-ce que c'est d'adorer, qu'est-ce que c'est d'entrer dans les profondeurs, qu'est-ce que c'est d'avoir soif de Dieu jusqu'à ce que ça t'emmène vraiment dans les profondeurs. Tu sens que tu es en profondeur, en adoration, en louange. Tu sens que tu es juste là devant le trône de Dieu à te prosterner devant l'Éternel. À le louer pour qui il est, à l'adorer pour qui il est. Il faut le désirer. Oui, parce que l'adoration, la louange, le worship bénit le cœur de Dieu. La parole de Dieu déclare « Heureux ceux qui habitent ta maison, car ils peuvent te célébrer encore, encore et encore. » Pause. Bien aimé, le worship nous enracine dans un engagement essentiel. Vraiment essentiel. J'aime beaucoup l'histoire avec l'histoire des fils de Corée. On peut bien voir que ces fils-là, ils accordaient une affection, un amour, un attachement passionné à la maison de Dieu. Je vous recommande d'aller lire l'histoire. Ils accordaient une affection, un amour à la présence de Dieu, à la louange, à l'adoration. Ils étaient enracinés dans un engagement essentiel. C'était un engagement essentiel de leur cœur envers Dieu qui était alimenté par leur fidélité et ferveur. C'était vraiment des passionnés de la maison du worship, de la maison de Dieu. Dans le psaume 84, 2, la Bible dit « Que tes demeures sont aimables, éternelles. que ta présence, que tes demeures sont aimées dans ma vie. Elles sont précieuses dans nos vies, bien-aimées. Dans notre quotidien en tant que chrétien, il faudrait que la passion de notre cœur, au-delà de tout le reste, c'est que nous aimons Dieu. C'est que nous aimons le Seigneur. Alors je t'invite, bien-aimé, à chercher le Seigneur. Pendant qu'il se trouve, cherche-le encore. Pendant qu'il est prêt, cherche-le et trouve-le. Le désir de Dieu est aussi que nous soyons passionnés. Que tu sois aussi passionné. Ce n'est pas quelque chose qui est juste pour les autres. Ce n'est pas quelque chose qui est juste pour les prophètes. Oh, tel frère, il s'y connaît tellement dans la Bible. Tel frère à l'église, il se démarque par sa manière de prêcher. Il se démarque par sa manière de vivre, par ses principes, par tout ça. Il est vraiment rempli. Seigneur, ça, ce n'est pas pour moi. Seigneur, ça, c'est juste pour les autres. Non, c'est une affaire de tout le monde. Ça concerne tout le monde. C'est essentiel pour nous de comprendre qui étaient les fils de Corée. Alors, pour la petite histoire, Corée était un Lévite. Il était un Lévite de la tribu de Lévi, cousin de Moïse et Aaron. Mais il était tristement reconnu pour s'être rebellé contre Moïse et Aaron dans le désert. Parce que lui, il contestait leur autorité. On ne conteste pas l'autorité qui vient de Dieu. Mais Corée contestait cette autorité que Dieu avait donnée à Aaron et à Moïse. Et lui, il disait en gros, pourquoi Moïse et Aaron devraient-ils diriger? En fait, l'histoire se trouve dans Nombre, le chapitre 16. Moïse dit, vraiment, quand j'ai lu cette histoire, c'est tellement merveilleux de dire la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'on découvre. Il y a parfois des choses, vous savez, parfois on lit, mais parfois on n'a pas tout découvert. Et parfois, un jour, on ouvre notre Bible à un endroit et on découvre une histoire. Et c'est ce qui s'est passé avec cette histoire. Je l'ai découverte comme ça. Bon, avant, je n'en ai pas entendu parler, mais je la découvre. C'est pourquoi c'est merveilleux de lire la parole de Dieu. Je vous recommande de toujours lire la parole de Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous y arriverons. Amen. Avec l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit, dans le chapitre 16, Moïse dit, « Si ces gens meurent comme tous les hommes, c'est que l'Éternel ne m'a pas envoyé. Mais si la terre s'ouvre, il les engloutit vivants. Alors vous saurez que ces hommes ont méprisé l'Éternel. » Là, c'est dans Nombre 16, le verset 29 au verset 30. « Et aussitôt la terre s'ouvre sous leurs pieds, engloutit Corée, Dathan, Abiram, leur famille et tous leurs biens. Un feu descend du ciel et consume les 250 hommes qui offraient de l'encens, malgré ces terribles jugements. » Malgré ces terribles jugements, bien-aimés, les fils de Corée ne périrent pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Un père qui a fait des choses horribles, qui n'a pas suivi la volonté de Dieu, il périt avec sa famille, mais seuls ses fils furent épargnés. La Bible dit, « Mais les fils de Corée ne moururent point. » Nous sommes dans Nombre 26, 11. Bien-aimés, ce verset prouve qu'ils étaient dissociés, qu'ils avaient été dissociés. Oui, qu'ils avaient vraiment dissocié la rébellion de leur père. Peut-être qu'ils ont refusé de suivre son orgueil, je ne sais pas, bien qu'ils se sont éloignés de... Peut-être qu'ils se sont éloignés au moment du jugement. Et on verra plus tard que ses fils et leurs descendants vont occuper une place d'honneur dans le service de Dieu, sous le roi David, malgré les fautes de leur père. Bien-aimé, je veux te dire aujourd'hui, peu importe les fautes familiales, peu importe les liens familiaux, peu importe ce que ton père ou ton grand-père, ton arrière-grand-mère, je ne sais pas, a eu à faire sur terre, Dieu peut restaurer ta vie. Par toi, si tu crois au Seigneur Jésus, Dieu peut restaurer ta vie et Dieu peut changer et peut transformer ta vie. Il peut renouveler toute chose, renouveler son alliance avec toi. Sous le règne du roi David, les fils de Corée sont devenus des chantres, des musiciens. Dans le temple, ils sont devenus portiers et gardiens des portes du temple. Ils sont devenus responsables des services sacrés dans la maison de Dieu. Vous voyez, ce sont des hommes complètement passionnés de la louange et de la présence de Dieu. Que même leurs descendants ont perpétué cet amour pour l'adoration. Oh, qu'est-ce que c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est vraiment merveilleux. Et dans les psaumes, il y a plusieurs qui ont écrit. Plusieurs psaumes portent leur nom. Ils ont écrit certains des plus beaux textes d'adoration. Pour ceux qui aiment souvent lire les psaumes. Parmi eux, on découvre le psaume 42 qui dit « Comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Dans le psaume 46, il y a Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Aussi dans le psaume 84, que tes demeures sont aimables, éternel désarmées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel. Vous voyez, tous ces psaumes sont en train de témoigner leur profonde soif de Dieu. Un amour pour sa présence, pour sa maison. On peut bien voir qu'ils sont marqués par la confiance et l'humilité. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, ne regarde pas à ton passé. Ni à ton passé familial, car il ne détermine pas ta vie. Tout cela ne détermine pas ton avenir. Parce que Dieu restaure. Amen. Dieu restaure. Dieu renouvelle. Parce que Dieu transforme. Vous voyez, bien que leur père ait été rebelle, les fils de Corée ont choisi un autre chemin. Celui de la fidélité et de l'adoration. Et quand je disais tantôt que Dieu peut restaurer ce que l'homme a détruit, on peut bien voir que les fils de Corée n'ont pas été rejetés à cause de leur faute. De la faute de leur famille, de la faute de leur père. Ils n'ont pas été rejetés à cause de faute de leur famille, de leur père. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a eu des erreurs dans ta famille. Ce n'est pas parce que des gens, des oncles, des tantes dans ta famille ont eu à faire des erreurs que Dieu va te rejeter. Non. Si tu décides de lui remettre ta vie, si tu décides de demeurer dans sa présence, de chercher constamment sa présence, si nous décidons de rester dans sa présence, de choisir sa maison, l'Éternel va nous relever. Et Dieu leur a donné une place dans sa maison. Ils étaient passionnés par la présence de Dieu, passionnés par tout ce qui était de Dieu. Et vous voyez, Dieu a complètement changé leur destinée. On peut le voir dans leur psaume, ils sont passionnés par Dieu. Ils sont vraiment passionnés. Ils ont su détourner l'héritage des rébellions que leur père les aurait laissé, vous voyez, parce que c'est la famille. Ils auraient eu un héritage de rébellion, un retour comme ça. Mais au lieu de ça, ils sont devenus des adorateurs. Et Dieu les a épargnés probablement parce qu'ils ont su rester humbles. Alors retenons ici que l'humilité et la repentance ouvrent la porte à la grâce. Oui, l'humilité et la repentance ouvrent la porte à la grâce. Que Dieu nous accorde l'humilité. Que Dieu t'accorde l'humilité. Que Dieu t'accorde un cœur repentant après avoir péché. Recommande-toi la grâce de Dieu. Dieu nous rappelle que peu importe d'où nous venons, il peut nous relever. Que peu importe ce qu'il y a eu autrefois, il peut encore nous élever. Nous utiliser puissamment. Si tu le crois, dis amen. Moi, je le crois. C'est seulement si nous choisissons de rester avec lui. Si seulement si nous choisissons de rester, nous nous disposons à demeurer dans sa présence. Les fils de Corée ont survécu. Ils se sont consacrés à servir Dieu dans la foi. C'est pourquoi c'est le moment. C'est le moment, bien-aimé. C'est aujourd'hui. 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 À chaque fois, nous disons demain, on fera. Demain, on va remettre de l'ordre dans notre vie. Demain, on va faire telle chose. Demain, on va faire ce que Dieu nous demande. Parfois, on a toutes les indications claires de ce que Dieu veut que nous fassions. Vous voyez? C'est comme physiquement un père et un fils. Ton père te dit, hey, j'attends que tu fasses la vaisselle. J'attends que tu nettoies la maison. Tu vois? Tu as des indications claires, très précises. Parfois, Dieu nous parle de manière très précise. Oui. Il nous dit tout clairement. Mais c'est nous qui remettons toujours à demain. Et c'est le moment. Comme Jésus à cet endroit-là, il a déversé son cœur à Dieu. Ses émotions. Il a tout déversé au pied de Dieu, à Gethsemane. Et Dieu veut renverser, rétablir et retirer ce qui cause ton mal-être. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable de renverser tout ce qui cause ton mal-être. Dieu est capable. Je sais pas, mais est-ce que tu as déjà pensé à ce que Jésus a réalisé alors qu'il était sur la croix? Est-ce que parfois nous pensons vraiment à ça? Est-ce que parfois nous réalisons vraiment son parcours sur la croix. Crucifié en agonie, rejeté des hommes en train d'asphyxier sous la torture. Vous savez, Jésus a cité un cantique, un psaume. Le psaume 22 sur la croix. Depuis la 6e heure de 12h jusqu'à la 9e heure à 15h de l'après-midi. La Bible dit, il eut des ténèbres sur toute la surface de la terre. Et à la 9e heure à 15h, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli lama sabachthani ». C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ça, c'est sur la croix. Jésus cite le cantique, le psaume 22, qui annonçait l'absolue fidélité de son autorité, de sa souveraineté. Oh, les plans parfaits de Dieu, dans la souffrance, il se confiait encore à l'Éternel. Il célébrait encore la fidélité de Dieu, même sur la croix. Oh, gloire à Dieu, parce que Jésus s'est offert en sacrifice pour nous. Même dans les pires ténèbres, et lorsqu'on regarde le psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un des psaumes les plus spécifiques sur la puissance qu'il y a dans la louange et dans l'adoration. La suite du verset, la suite du verset 4 à 6, où la Bible dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça continue par dire, mais tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. C'est qui le peuple? C'est nous le peuple. Et Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et tu les sauvais. Ils se confiaient à toi et ils n'étaient pas confus. Oh oui, si tu te confies en l'Éternel, tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas confus. C'est tellement inspirant, c'est tellement puissant que on a même la force de pouvoir tenir dans nos épreuves. On a même la force lorsque les épreuves seront là, lorsque les difficultés seront là. Parce que ça, ça ne manquera pas. Ça ne manque pas, en fait. Il y a toujours des difficultés. Ça sera toujours là. Les épreuves, ils sont là pour nous forger. Ils sont là pour nous faire grandir. Lorsque même tu es dans ton pire Gethsemane, sur terre bien-aimée, rappelle-toi que le Seigneur est fidèle. Oh Seigneur, accorde-moi de toujours me rappeler que tu es fidèle, peu importe ce que je vis. Je suis en train de finir. La Bible dit, lorsque je m'approche de lui, il s'approche de moi. Et lorsque je commence à louer, lui offrir des sacrifices de louange, sa présence vient siéger dans ma vie. La présence de Jésus est ici, dans nos louanges. Oui. Je termine, c'est parce que le worship nous élève au-dessus de nos pires épreuves. Le worship nous élève au-dessus de nos pires épreuves. C'est une vie entière de cœur à cœur avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous rende capable par sa grâce. Et oui, rien n'est impossible. Soyez toujours disposés à demeurer dans la présence de Dieu. Par le Saint-Esprit. Le laissant conduire votre vie. Le laissant guider votre vie. Gloire à Jésus. Amen.